L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, l'hommage des Français à Johnny Hallyday et en Belgique également, cette Belgique avec qui le rocker a toujours entretenu un rapport sentimental et parfois compliqué. Nous verrons également au Canada pourquoi le Premier ministre Trudeau est relativement déçu de sa semaine officielle passée en Chine. Au programme encore, la Suisse, pas très fière de constater qu'elle figure sur la liste grise des paradis fiscaux. Et enfin, c'était il y a 40 ans, pratiquement jour pour jour, à Bangui, le sacre de l'empereur Bokassa. Voilà pour l'actualité francophone, bienvenue à tous. La Belgique a perdu ce jeudi un grand homme d'État, Nathalie De Vic.
Oui, un sage, c'est comme cela qu'il était considéré dans le paysage politique belge. Philippe Maystadt, son nom ne vous est peut-être pas inconnu depuis qu'il avait pris la tête de la Banque européenne d'investissement entre 2000 et 2011. Tour à tour, ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique, président du Parti social-chrétien. Son engagement, son rayonnement dépassaient de loin les clivages politiques et les frontières. Européen convaincu, il était aussi un formidable professeur, pédagogue, expert respecté. Jamais son image n'a été écornée. Malade, il s'est éteint jeudi à 69 ans.
En Suisse, Pierre-Henri Chauffat, le démocrate chrétien Yannick Butet ne démissionnera pas, en tout cas, pas pour maintenant, pas tout de suite.
Le Conseil national s'est défendu de tout harcèlement sexuel. Nous l'évoquions ici même la semaine dernière. Yannick Butet s'est toutefois mis en congé maladie pour, dit-il, soigner son problème d'alcool. Une consommation excessive qui l'aurait conduit à se comporter comme un gros lourd. Au Parlement fédéral, beaucoup y voient une échappatoire, pour ne pas dire une fuite. D'aucuns dénoncent même une stratégie construite avec son avocat pour détourner sur l'alcool sa responsabilité dans ses comportements inappropriés avec les femmes.
Benoît Audet, au Canada, votre personnalité de la semaine, c'est le chef du service de police de la ville de Montréal.
Oui, Philippe Pichet, il est suspendu de ses fonctions pendant une période d'un an. On a nommé un administrateur provisoire pour le remplacer. Le gouvernement du Québec a pris cette décision après le dépôt d'un rapport dévastateur qui fait état d'un climat de tension et de suspicion qui s'est installé au sein du service de police. Le service de police de Montréal est l'un des plus importants au Canada. Il compte 4000 policiers.
En France, le premier discours officiel prononcé cette semaine par Brigitte Macron, un discours diplomatique. C'était à l'occasion du baptême d'un bébé panda prêté à la France par la Chine. Discours donc en présence du vice-ministre chinois des Affaires étrangères. Et quand la Chine prête un panda à un pays tiers, ce n'est pas à prendre à la légère. Les autorités de Pékin prennent ça très au sérieux et toute faute protocolaire est assimilée à un affront. Il faut dire que le panda est considéré en Chine comme l'un des symboles de l'âme du pays. Le portrait de la semaine sur RFI avec vous, Charlotte Hydrac, c'est un joueur de volleyball camerounais. Il est victime à la fois de racisme et d'un arbitre.
Nathan Wunembaina, l'international, joue au club de Tours, hué par une partie du public mercredi lors d'un match de Coupe d'Europe en Grèce. Excédé par les cris de singes qui fusent des tribunes, il finit par sortir du parquet. Alors l'arbitre applique le règlement à la lettre, carton rouge et exclusion pour avoir quitté le terrain sans autorisation. Aberrant pour le club de Tours qui a fait une réclamation.
Après le choc et l'émotion, voici donc l'hommage rendu à Johnny Hallyday. L'Élysée et la famille du chanteur se sont mis d'accord. Un hommage populaire et non pas national sur les Champs-Élysées. Des centaines de motards pour l'accompagner, puis cérémonie religieuse en l'église de la Madeleine et quelques mots du président Macron. Un événement national qui a un peu éclipsé la mort 24 heures plus tôt de l'écrivain et académicien Jean d'Ormesson. Un peu comme en 1963 en France, quand la mort d'Édith Piaf avait éclipsé celle de Jean Cocteau. Et ce type d'éclipse, eh bien c'est justement ce que redoutait Jean d'Ormesson. Il l'avait dit 9 ans plus tôt à l'animateur Thierry Ardisson.
D'abord, un écrivain doit faire attention à la façon dont il meurt.
Ouais.
Vous savez, c'est très mauvais pour un écrivain de mourir, par exemple, en même temps que Piaf. Il y a un autre écrivain à qui j'ai succédé à l'Académie, qui est Jules Romain.
Ouais.
Jules Romain est mort le 14 août. C'est désastreux de mourir
oui,
en 14
faut faire attention.
Ouais. Parce que le lendemain, ouais. 15 août...
Tout le monde s'en foutait, oui, absolument. Ouais.
Voilà, et entre Johnny Hallyday et Jean d'Ormesson, eh bien, les hebdomadaires Paris Match ou Le Point n'ont pas choisi. Ils ont publié chacun deux numéros distincts, l'un consacré au rocker, l'autre à l'académicien. Et la ville de Paris, elle, a choisi son camp en faisant inscrire tout le week-end à Paris sur la Tour Eiffel, ce simple message comme un point final. Merci Johnny.
Un petit peu belge, on se sentira tous un petit peu triste, on se sentira tous un petit peu suisse, oh oui, le jour de la mort de Johnny. Le jour de la mort de Johnny.
Le jour de la mort de Johnny, c'est le groupe français Les Fatal Picards qui avait anticipé donc il y a 3 ans ce jour de la mort de Johnny. Et entre Johnny Hallyday et la Belgique, Nathalie Devic, c'était aussi une histoire d'amour, la Belgique qui pleure le rocker aujourd'hui tout autant qu'en France. Hein.
Oui, même si tout avait plutôt mal commencé de ce côté-là, puisque contrairement à ce qu'affirmait Lynn Renault en le présentant à 17 ans à la télé, non, son père n'était pas américain et ne s'appelait pas Hallyday. On connaît depuis l'histoire, la vraie, Léon Smet, bruxellois, abandonne son fils Jean-Philippe, encore bébé. Élevé par sa tante paternelle entre Londres et Paris, c'est le nom de scène de son cousin acrobate Lee Hallyday qu'il reprend. Sa relation avec la Belgique se complique en 2006 quand le chanteur veut, dit-il, retrouver ses racines. Il veut devenir belge, demande sa naturalisation, mais les autorités le soupçonnent de ne chercher qu'un tremplin pour Monaco, où les citoyens belges bénéficient d'exonération d'impôts. La députée Karine Lallieu était dans la commission qui examinait son dossier.
Lorsqu'on a analysé le dossier, eh bien, on avait quelques doutes par rapport à la sincérité de sa demande, qui correspondait pas tout à fait aux critères de la loi. Et nous nous sommes dit, on va ajourner 6 mois et on verra comment Johnny justifie encore cette demande.
Mais l'idole n'attendra pas. Déçu, Johnny renonce pour s'établir en Suisse, à Gstaad, exil fiscal momentané, car il n'y réside pas assez, avant de se tourner, on le sait, vers l'Amérique.
Oui, cela dit Nathalie, la Belgique a toujours compté, au moins sentimentalement pour Johnny.
Oui, chaque fois qu'il venait, et la dernière fois c'était en juin, il aimait le répéter, vous savez bien que la moitié de mon cœur a toujours été ici. Et les Belges le lui ont toujours bien rendu, un nombre incalculable de fans parmi les plus acharnés. À l'annonce de sa mort, ils se sont rassemblés spontanément sur la Grand Place de Bruxelles, où le son et lumière de Noël a été interrompu pour diffuser ses chansons, comme ce fut le cas d'ailleurs toute la journée dans le métro bruxellois. Johnny, le plus belge des Français, par le sang, par son nom, mais surtout par le cœur. Les nombreux hommages rendus dans le plat pays le prouvent encore aujourd'hui.
Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a passé la semaine en Chine et son objectif était d'amorcer des négociations de libre-échange avec la deuxième économie du monde. Mais cela dit, Benoît Audet, ce voyage en Chine ne s'est pas tout à fait passé comme le souhaitait le Premier ministre canadien.
Non, le Canada veut en arriver à un accord qui va plus loin qu'un traité de libre-échange traditionnel avec la Chine. Justin Trudeau veut y inclure des dispositions progressistes en matière d'environnement et des droits des travailleurs notamment, mais la Chine ne voit pas les choses du même œil, du moins pas pour l'instant. On écoute le Premier ministre Justin Trudeau.
Mais à moins qu'on puisse démontrer que les préoccupations des citoyens sont au cœur de nos négociations, ça va être extrêmement difficile de conclure quelques accords que ce soit dans les années à venir.
Et pourtant, Benoît, c'est pourtant une priorité pour le gouvernement du Canada que de développer de nouveaux marchés d'exportation.
Oui, le Canada est engagé dans de délicats pourparlers avec les États-Unis et le Mexique pour renégocier l'accord de libre-échange nord-américain. Ces négociations ne vont pas très bien. Il y a donc une certaine urgence de développer de nouveaux marchés, comme en Asie. Les critiques du gouvernement Trudeau croient pour leur part que le premier ministre devrait laisser tomber certains principes pour éviter de perdre d'éventuels partenaires commerciaux. C'est donc un jeu délicat. L'année 2018 s'annonce déterminante au Canada sur le front du commerce international. Le dernier traité d'importance signé par le Canada est celui avec l'Union européenne qui est justement entré en vigueur il y a quelques mois.
La Suisse, Pierre Anchauffat, la Suisse un peu dépitée de se retrouver sur la liste grise des paradis fiscaux, une liste publiée cette semaine par Bruxelles.
Oui, même si elle s'y attendait un peu après le refus de la réforme de l'imposition des entreprises par le peuple, la Confédération a pris acte avec déception de cette inscription, car le sujet reste éminemment émotionnel en Suisse, surtout après l'abandon du secret bancaire. Cette présence sur la liste grise met très en colère le vice-président des libéraux radicaux. Christian Lucher dénonce l'hypocrisie de l'Union européenne.
Ce qu'on voit, que la Belgique veut durcir le ton et qu'elle nous fait de la concurrence dans le domaine des forfaits fiscaux, on se demande véritablement si, moralement, on peut venir nous faire la leçon dans ce genre de domaine. Je ne vous parle même pas du Portugal, où on peut aller s'installer, l'Italie aussi d'ailleurs. Voilà où sont les paradis fiscaux, et en tout cas pas la Suisse.
Sauf que ce n'est pas l'optimisation fiscale des particuliers qui est en cause. Si la Suisse est sur liste grise, c'est en raison de ses régimes fiscaux spéciaux pour les multinationales. Un système que Berne s'est engagé à corriger. Sauf que le peuple a dit non au premier projet. Olivier Longchamp, responsable du dossier fiscalité au sein de Public Eye, une ONG qui plaide pour la transparence financière, n'est donc pas surpris.
La Suisse va simplement réitérer les engagements qui ont déjà été pris par le passé d'abolir à terme ces régimes fiscaux spéciaux. L'Union européenne, de ce point de vue-là, acceptera en disant « bon, ben oui, d'accord, on a pris note, du coup, on ne va pas vous mettre sur la liste noire, mais on aimerait effectivement contrôler que vous le fassiez réellement. Et tant que quelque chose n'a pas été avalisé par le Parlement et par le peuple, ben, vous restez là, dans les limbes, quelque part, à attendre. »
Reste à voir si le peuple validera le second projet afin de sortir des limbes.
Retour avec RFI sur une cérémonie il y a 40 ans, pratiquement jour pour jour. C'était le sacre de Bokassa, le dernier empereur d'Afrique, qui voyait le jour à la tête de la Centrafrique. Et bien 40 ans après, Charlotte Hydrac, certains se laissent aller à la nostalgie.
Il avait le même carrosse que la reine d'Angleterre, une couronne montée de 7000 carats de diamants, des chevaux venus tout droit de France. Ce 4 décembre 1977, Bangui est en liesse pour le sacre napoléonien et ubuesque de Jean Bédel Bokassa. Bertin Betto était scout à cette époque-là.
On avait demandé à tous les élèves de joncher les avenues de Bangui avec des petits drapeaux en main pour pouvoir accueillir et applaudir les invités. C'était beau à voir. La plupart de ce que nous voyons aujourd'hui, c'est Bokassa qui a construit. L'université s'est conçue par lui. Personne n'a fait ce que Bokassa a fait.
Depuis sa chute en 1979, le pays s'est enfoncé dans la crise. Un coup d'État, rébellion, corruption. Aujourd'hui, une grande partie de la Centrafrique est toujours occupée par des groupes armés. Alors certains ont tendance à oublier le tyran et le dictateur mégalomane, comme l'explique le sociologue Sylvestre Croc.
Il y a désormais la phase de la nostalgie caractérisée par une génération qui, au constat du fait que depuis que l'Empire a chuté, le pays ne se bâtit plus. Et cette génération est en train de réclamer les héritages de Bokassa.
Et pour autant, ce 4 décembre 2017, aucune cérémonie n'a été organisée à Bangui pour commémorer une journée où la Centrafrique était le centre du monde.
Voilà pour ce tour d'horizon de la semaine francophone. Merci aux contributeurs de Suisse, de RFI, du Canada, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine au même endroit et à la même heure.